Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez votre programme en français sur la radio SBS, je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble, une heure d'actualité, de magazine et on commence comme tous les samedis avec la rétrospective du jour. Mesdames et messieurs, la rétrospective du jour et on fait un bond de 43 ans pour se retrouver au 21 juin 1982. Cette date marque la première édition de la fête de la musique qui se déroulait à Paris et cet événement qui célèbre la musique sous toutes ses formes est aujourd'hui devenu un événement mondial. Le récit de François Vantôme.
Je ne pense qu'à ça, 4, 3, 2, 1, je joue de la musique.
La fête de la musique a vu le jour en France au cœur des années 80, à une époque où la culture musicale était en pleine effervescence. En 1982, le ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, a été à l'origine de cette initiative. Son objectif principal était de promouvoir l'accès à la musique pour tous et d'encourager les musiciens à s'exprimer librement. Cette idée novatrice a été inspirée par le désir de faire de la musique un véritable élément de la vie quotidienne, mais aussi de revitaliser l'espace public en y intégrant des performances musicales. La date du 21 juin a été choisie pour coïncider avec le solstice d'été, le jour le plus long de l'année, symbolisant la lumière et la joie, un moment idéal pour célébrer la musique en plein air. La première fête de la musique a eu lieu le 21 juin 1982 et a rapidement pris la forme d'un immense festival. Organisé dans les rues, les parcs et les places de Paris, l'événement a attiré des artistes de tout horizon, des groupes professionnels aux amateurs passionnés. Ce qui a débuté comme une idée audacieuse est devenu un succès retentissant. On écoute Jack Lang qui explique la genèse et le succès important de cette première édition.
À Saint-Jean, aux musettes, mais il a fallu d'un seul baiser.
Vous avez exprès employé l'expression « faites de la musique », c'est-à-dire « faites vous-même ». Jouez sur le mot « faites » au sens « faites » et au sens « agir ».« Faites vous-même de la musique ». Que l'on a choisi le 21 juin, pourquoi ? Parce que finalement c'est le plus beau jour de l'année, c'est le plus long jour de l'année. Et alors on s'est demandé... Le premier 21 juin, qui était donc en 1982, comment les gens allaient répondre. On était un peu dans l'angoisse, comme lorsqu'on passe un examen, comme lorsque on se présente à une élection, ou lorsqu'on accomplit un acte nouveau. Est-ce que les gens vont dire oui ou non? Et ça a été merveilleux, parce que dès la première année, la réponse a été positive.
T'as commencé là-bas, dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Moi, je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps.
Les premières éditions ont vu des musiciens jouer de nombreux genres musicaux, allant du rock à la musique classique, en passant par le jazz et la musique du monde. Le principe de base était simple, faites de la musique. Les événements étaient souvent gratuits et ouverts à tous, permettant à chacun de participer à la fête, de se produire sur scène ou d'apprécier les performances des autres. Au fur et à mesure que la fête de la musique gagnait en popularité, elle a commencé à s'étendre au-delà des frontières françaises. Dès 1985, des villes comme Berlin, New York et Montréal ont organisé leurs propres célébrations, intégrant le concept à leur culture musicale locale. Aujourd'hui, la fête de la musique est célébrée dans plus de 120 pays, incluant des grandes villes comme Tokyo, Sydney et Londres. Chaque pays apporte sa propre touche à cet événement. Par exemple, en Espagne, les performances mettent souvent en avant la musique flamenco. tandis qu'à Berlin, on peut voir des concerts dans des endroits iconiques. Ce mélange de culture et de styles musicaux enrichit l'expérience et renforce l'universalité de la musique. La fête de la musique a eu et a toujours un impact profond sur la manière dont la musique est perçue dans la société. Elle encourage l'égalité d'accès à la musique, permettant à des musiciens de tout niveau de se produire. Cette journée met également en avant les talents locaux, créant des opportunités pour des artistes émergents de se faire connaître. L'événement joue un rôle crucial dans la promotion de la diversité musicale, rassemblant des genres variés et permettant une découverte mutuelle. La fête de la musique a enfin contribué à redéfinir l'espace public, transformant des rues autrefois silencieuses en véritables scènes vivantes, renforçant ainsi le lien social dans les communautés. On écoute Jack Lang.
Cet événement n'appartient plus à personne, il appartient à tout le monde. C'est devenu, c'est entré dans les mœurs, ça a conquis droit de cité. Il n'est au pouvoir d'aucun gouvernement ni d'aucun parti d'empêcher ce qui est devenu, on peut dire, une institution nationale.
La fête de la musique est bien plus qu'un simple événement, c'est une célébration mondiale de l'art musical et de la créativité collective. Alors aujourd'hui, c'est à vous de jouer.
Je ne pense qu'à ça. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique. Je sens la musique. Je fais l'amour en musique.
Sur les branches immobiles, les arbres font des rayons. Vibre la lumière, chanter les couleurs.
C'est exactement 2 ans après le lancement de la fête de la musique que France Gall sortait ce titre, Cézanne Pain, en 1984 donc. Allez messieurs, dames, on marque une très courte pause. Restez sur SBS French et on se retrouve dans un instant avec l'interview de Myriam Boisbouvier-Wiley. Son nom vous dit sûrement quelque chose, elle est bien connue de la communauté francophone en Australie, surtout à Melbourne. Myriam a été consul honoraire à Melbourne pendant plus de 13 ans. Elle prend aujourd'hui la présidence de l'Alliance française de Melbourne. Interview.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le très grand plaisir d'avoir Myriam Boisbouvier-Wiley, qui est la nouvelle présidente de l'Alliance française de Melbourne et aussi la présidente du French Australian Cultural Exchange Foundation. Bonjour et bienvenue.
Merci Jean-Noël, c'est un plaisir d'être ici.
Myriam, vous êtes la nouvelle présidente de l'Alliance française de Melbourne depuis quelques semaines.
Depuis quelques jours.
Depuis quelques jours, voilà. Mais avant d'aborder ce nouveau rôle, peut-être pourrait-on parler de votre parcours professionnel. Je sais que vous aviez étudié le droit au début.
Oh mon Dieu. Alors là, j'ai l'impression de revenir vraiment très longtemps en arrière. Mais oui, je suis une ancienne avocate. J'étais établie à Monaco puisque c'est mon pays d'origine. Et quand je me suis mariée avec mon mari australien que j'avais rencontré à New York, bon bref, c'est une longue histoire celle-là aussi.
Et pas à Monaco.
Non, je l'avais rencontré à New York. J'étais à ce moment-là dans ma première carrière de investment banking et lui, il était aussi en investment banking. Et puis on s'est retrouvé, on s'est perdu de vue, enfin c'est la chanson. Et puis au bout de plusieurs années, quand on s'est finalement retrouvé, j'ai sauté le pas. J'ai quitté ma profession d'avocate, mon pays, et je suis arrivée ici avec un billet one way et un touriste visa. Donc, c'était compliqué au départ, même si on était mariés et qu'on a fait des enfants, puis encore des enfants. Mais enfin, au bout de 4 ans, 5 ans, je disais à chaque fois à l'immigration, mais voyez, j'ai un fils de plus. Combien il vous en faut pour vous montrer que je suis pas ici pour un visa? Mais voilà, donc ça a été une décision prise pour l'amour et par amour.
Et ensuite, vous avez été consul honoraire de France à Melbourne pendant plusieurs années.
Pendant 13 ans, effectivement. Et là, ça s'est venu, rien n'était planifié dans ma vie. mais une fois que nous avons eu des enfants, John et moi, j'étais très désireuse de leur donner une éducation en français, le contact avec la langue de leurs grands-parents. Et il y avait une petite embryon d'école, Caulfield Junior College, qui accueillait l'école française de Melbourne, qui était gérée par un comité de parents, dont je suis venue la présidente au bout d'un an. Et cette implication dans l'éducation bilingue, cette passion que j'avais le lobbying que j'ai fait à l'époque
pour promouvoir
non seulement la langue mais aussi cette petite enclave qui existait un peu d'une manière pas très encadrée au sein d'un établissement d'État du Victoria m'a mis dans le radar des autorités françaises qui se sont dit « Oh, celle-là, on va lui donner quelque chose à faire. »
Donc, vous êtes devenue consul honoraire de France autour des années...
En 2000, j'ai été nommée par décret du président Sarkozy à l'époque, en décembre 2010. Et le temps que les autorisations administratives australiennes fassent leur chemin, j'ai pris mes fonctions en juin 2011.
Il faut présenter des lettres de créance dans votre cas
Non, les lettres de créance, ça c'est plutôt pour les ambassadeurs qui doivent présenter des lettres de créance qui représentent un État et les consuls représentent plus la communauté et dépendent donc de l'autorité de l'ambassadeur.
Et il y a eu, j'imagine, d'autres moments marquants lors de votre mandat. Vous avez laissé un héritage extraordinaire sur le plan culturel, économique et social au sein de la communauté française du Victoria.
Oui, alors je me suis investie évidemment parce que c'était un tel honneur que je ne pouvais pas ne pas y être, me montrer la hauteur de cet honneur. Donc il fallait que donc il y a eu différentes actions sur différents plans qui m'ont extrêmement gratifiée parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, je reçois toujours beaucoup de gratitude de la part de certaines personnes que j'avais pu aider totalement sans le savoir même. Puis après, des créations de choses qui existent toujours.
Dont French Assist et Melbourne Accueil.
Exactement. Et puis cette année, les 10 ans du Bastille Day, du French Festival de Bastille Day, qui va avoir lieu le 12 et 13 juillet à Queen Victoria Market. Donc tout ça, ce sont des institutions concrètes. On ne sait pas comment les lendemains seront faits, mais quand on voit que ça perdure et que ça prolifère, on est très fiers et on se dit, ben voilà, c'est bien. Et quand les gens ne savent plus qui était à l'origine, c'est encore mieux. Ça veut dire que vraiment l'institution est devenue pérenne.
On parle maintenant du nouveau départ de l'Alliance française de Melbourne et les nouveaux locaux dans le CBD.
Oui, ça c'est magique parce que l'Alliance française de Melbourne, avec laquelle la famille Ducasse est très très liée, puisque votre papa, votre frère ont été des acteurs très importants de cette Alliance française, qui est la plus ancienne institution française en Australie, pas seulement dans le Victoria, mais en Australie, 135 ans cette année, créée donc à la base par Berthe Mouchette dans une maison d'école de filles à Saint-Kilda. Mais il ne faut pas oublier que, créée à Saint-Kilda, elle a ensuite un peu été itinérante. Elle a été jusqu'à Armadale, à Richmond, dans North Melbourne, et revenue après à Saint-Kilda, d'où elle en est partie suite au moment des années Covid, en fait, il y a eu des problèmes de toiture. Et ça, c'était grave quand le toit commence à vous tomber sur la tête. Donc, c'était, il y a eu une double catastrophe. Le toit qui tombait et Covid qui fermait, mettait tout le monde en confinement. Donc, cette double catastrophe a été vraiment très difficile pour l'Alliance française. Et je rends hommage à la directrice de l'époque, Johanna Durand, et au conseil d'administration de l'époque, qui était présidé par votre frère Gilbert, d'avoir réussi à maintenir la barque, hein, parce que ça aurait pu facilement couler, mais ça ne l'a pas fait. Et vraiment, bravo aux précédentes équipes.
Et les nouveaux locaux se trouvent exactement où,
Alors, Maria? 140 Bourke Street. Il y a un arrêt de tram juste devant. C'est très pratique. C'est pas loin du Parlement. C'est très facile d'accès parce qu'il y a la gare aussi du Parlement qui est à deux pas. Et on y est là cette fois-ci pour y rester parce que c'était une acquisition. Et je dois remercier un très généreux légataire qui s'appelait Monsieur Violette, qui avait légué, qui avait travaillé toute sa vie à l'Alliance, et puis qui n'avait pas d'enfants et qui avait donc fait un legs de ses économies, grâce auquel l'achat du bâtiment de Eldon sur Grey Street avait été fait. Et puis suite à la vente de ce bâtiment, la stratégie est de dire on investit une partie dans un fonds qui va nous ramener, qui va produire des revenus, c'est très important. Et une autre partie, donc pas toute la partie, va être mise dans de la pierre. Et donc, on a un premier étage complet de 140 Bourke Street avec une grande terrasse qui sera vraiment adorable en été. Là, il fait un peu froid, je dois dire. J'y étais ce matin. et ensuite, le quatrième étage, une partie du quatrième étage pour avoir des bureaux supplémentaires pour l'administration. Et également, je crois, deux classes supplémentaires quand toutes les classes du bas sont prises. Donc, cinq classes en tout. Et elles sont belles, elles sont conviviales. Et j'y étais ce matin encore et on voyait des petits croissants un peu partout. Je me dis, ça va vraiment appâter l'intérêt pour le français.
Peut-on parler de certains de vos projets comme nouvelle présidente de l'Alliance française de Melbourne? Je pense que l'Alliance française French Film Festival restera toujours l'événement culturel le plus important de l'Alliance française et des Alliances françaises d'Australie.
Absolument. Donc ça, c'est une initiative qui remonte à 36 ans maintenant et qui correspond au plus grand festival du film français en dehors de la France. C'est devenu énorme. Et on a un engouement de toutes les des francophones et des non-francophones d'ailleurs, parce que le cinéma français est une touche. C'est très différent d'Hollywood et le public adore justement de se dire bah tiens, on va pas aller voir forcément le film auquel tout le monde connaît la fin d'avance ou les stéréotypes, etc. Il y a toujours un petit twist, soit d'humour, soit de tendresse, qui fait que le cinéma français est extraordinaire. Et oui, c'est un grand événement pour l'Alliance et qui rassemble toutes les alliances d'ailleurs d'Australie. Depuis un an, il y a une association qui s'appelle Alliance Française French Film Festival Limited et qui est créée pour justement bien coordonner le festival du film entre toutes les alliances d'Australie. Et ce board qui est constitué par les présidents de toutes ces alliances avec un CEO, un general manager qui est aussi détaché de l'État français et qui est vraiment l'attaché audiovisuel de l'ambassade de France à Canberra. Donc il est basé à Sydney, mais ça s'est bien professionnalisé tout ça.
Et il y a des projets qui vous tiennent à cœur, que vous aimeriez mettre en place des projets
avec
d'avenir.
Ma nouvelle casquette de présidente, oui, on a toujours, quand on prend une présidence, on se dit qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, évidemment, on a des projets. L'idée que c'est difficile d'arriver après Gilbert Et après Grant, qui était son second pendant 9 ans, donc on se dit on va faire les choses différemment parce que sinon, voilà. Ça, bon. Alors, on a des nouveaux locaux, un nouveau board. Ça fait un an déjà que je suis sur ce conseil d'administration et j'avais commencé à m'intéresser à la gouvernance. En me disant, on a besoin d'être un board plus agile, plus facile à s'adapter, donc plus réduit en fait en taille, avec des compétences déterminées à l'avance. Et on aura 3 sous-comités, on travaille, chacun se retrousse les manches sur ces 3 comités sélectionnés. Et on va pouvoir avoir plus d'impact en étant plus réduit, ce qui est un peu contraire aux idées acquises, en se disant il faut un board énorme avec chacun ayant des compétences. Non, ce qu'on va faire, c'est un board réduit et on s'appuiera sur l'appui de sur les compétences techniques de certains consultants externes qui viendront ponctuellement lorsqu'on en aura besoin. Donc les enjeux, c'est la technologie. J'aimerais vraiment qu'on arrive à avec l'intelligence artificielle qui existe maintenant à innover et surtout à améliorer notre système actuel qui, je me rends compte en étant là depuis un an simplement, j'entends les retours qui disent « Ah, il n'est pas terrible, il y a des problèmes par-ci, des problèmes par-là ». Ce n'est pas facile à changer. On sait ce qu'on a et on ne sait pas ce qu'on obtient. Donc, il faut être prudent. Il ne faut pas tout casser et ensuite ne plus rien avoir. Mais voilà, donc ça, c'est probablement un des enjeux prioritaires que j'aimerais regarder. Mais ce qui intéresse vos auditeurs, c'est la communauté.
Et l'enseignement de la langue française.
Et voilà, l'enseignement de l'Alliance française, de la langue française et la communauté, ce sont les deux, c'est vraiment la priorité maintenant. Puisque sans toi, on était itinérant, on avait quelques salles de classe à Swanson Street, mais il n'y avait pas un foyer. Et maintenant, nous avons trouvé notre foyer, notre French Hub. Et c'est là où on va attirer... Les gens qui viennent après le travail pour prendre un petit verre de vin, qui peuvent aussi avoir une conversation en français, qui peuvent lire un magazine en français. Et une innovation, c'est encore une fois avec l'intelligence artificielle, c'est les microfolies, c'est-à-dire c'est le musée digital. On peut se plonger dans un musée de France, le Louvre, un musée de province, peu importe, dans son fauteuil de l'Alliance française de Melbourne. Donc ça, c'est aussi des projets excitants.
Un dernier message, Myriam ?
Il faut venir. Nous avons une journée porte ouverte grâce au grant, comment on dit le grant, la subvention du gouvernement du Victoria, de la commission multiculturelle, à qui nous disons un immense merci. Et donc samedi 21 juin, alors Marie-Hélène me disait, fais attention qu'il n'y ait pas trop de monde parce que sinon il va y avoir la queue. Mais c'est bien d'avoir la queue, les Melbourniens aiment faire la queue. Entre midi et 17h, 140 Bourke Street, j'espère vous y voir nombreux.
Merci à vous Myriam et bonne continuation.
Merci Jean-Noël.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Ah si j'étais riche, si j'étais une célébrité, sûrement que la vie serait moins pénible et plus drôle. Si j'avais du talent, si je savais écrire et chanter, j'aurais plus de power, moins de poids sur les roues. Encore un peu de temps, j'ai besoin d'encore un peu de temps. Encore un peu.
C'était Neg Marron avec sa chanson sortie cette année en 2025, Un peu de temps. Il y a un an, nous rencontrions Aymeric Maudou, le CEO et fondateur de Lord of the Trees, une entreprise de restauration des écosystèmes grâce aux technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, les drones ou encore la robotique. Il nous expliquait comment son entreprise fonctionne en collaboration directe avec les peuples premiers australiens et comment, selon lui, la nature est résiliente.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous sommes en ligne avec Aymeric Maudou, directeur général et fondateur de Lord of the Trees, une entreprise de restauration d'écosystèmes. Aymeric, bonjour.
Oui, bonjour Mariam.
Alors, pour simplifier ce que votre entreprise fait, vous agglomérez plusieurs technologies pour renforcer tout simplement la protection de l'environnement, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Nous avons commencé la compagnie il y a, on arrive sur les 50, ça. On est basé à Sydney, on opère globalement. Et en fait, comme vous disiez, c'est un amalgame de plusieurs technologies, dont la robotique, les drones et l'intelligence artificielle pour aider à faire de la réforestation ou alors de la protection de l'environnement en utilisant la technologie pour le bien de la planète.
L'intelligence artificielle, les drones, les robots, tout ce dont vous venez de parler, on est à une époque où ça se développe énormément, on parle quasiment que de ça, mais ça fait encore peur, ces polémiques, il y en a qui sont absolument contre. Comment vous faites pour utiliser ces outils, ces technologies à bon escient et surtout, quel est l'accueil ici en Australie?
Pour mettre un petit peu ce qu'on fait dans le contexte de nos opérations, si on considère donc, comme on a dit, les drones, les robotiques et l'intelligence artificielle comme étant ce qu'on appelle ici la high-tech, on travaille en symbiose avec ce qu'on appelle aussi low-tech. L-O-T-E-K, c'est un principe qui veut dire local, traditional, ecological knowledge, donc la connaissance du milieu et des pratiques par les populations locales, notamment les populations indigènes et aborigènes avec lesquelles on travaille. Donc, c'est pas juste de la robotics, de l'intelligence artificielle. Nous, la politique en fait qu'on a à Lord of the Trees, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle et les drones et la robotique pour le bien. Donc, on fait partie de deux associations, AI for Good. Et une autre association s'appelle Drones for Good. En fait, c'est une charte dans laquelle on s'engage, nous, à utiliser justement les drones et l'intelligence artificielle pour faire du bien et non pas créer des choses qui pourraient nuire à la population ou aux animaux.
Très concrètement, pour que nos auditeurs comprennent bien, donc vous parlez de protection de l'environnement, vous parlez de reforestation, vous parlez de restauration d'écosystèmes. Comment elle fonctionne, votre entreprise, qu'on comprenne bien?
On facilite un service pour une entreprise ou un particulier qui a une grosse propriété ou un gros terrain et qui veut planter des arbres. Donc, soit restaurer un écosystème qui a été dégradé. Donc là, il y a les trois scénarios sur lesquels on se trouve actuellement. C'est une coupe de forêt qui a été faite illégalement. Donc, on a ce genre de problème beaucoup plus en Asie du Sud-Est. On travaille aussi énormément avec les gouvernements après qu'il y ait un feu. On en a fait l'expérience douloureuse ici à côté de Sydney il y a 4 ans de ça, avec des feux qui ont duré plus de 6 mois. Et le dernier, c'est quand les terrains ont été endommagés sévèrement. On est prêt à intervenir après ce genre d'événement, mais on n'a pas encore fait. Par contre, on a plus d'expérience avec les compagnies minières. Donc, quand une compagnie minière a fini son contrat, elle doit redonner la terre, en fait, aux peuples indigènes ou aux peuples premiers ici en Australie à qui ça appartient. Et sont obligés par la réglementation de rendre la terre comme ils l'ont trouvée. Bon, on sait très bien qu'une fois que la mine est fermée, l'environnement est complètement différent de quand ça a commencé. Donc, en fait, on travaille énormément avec ces boîtes pour essayer de remettre en place, on va dire, l'écosystème sain qui se rapproche le plus à ce qu'il était avant qu'il ait été endommagé. Je vous explique un petit peu comment on travaille. Donc, c'est un processus de 4 étapes. L'étape numéro 1, on fait l'analyse du paysage. Donc, c'est là où on envoie les drones. C'est là où on récupère toutes les informations sur la topologie et tout ce qui a à voir au niveau géographique, au niveau du climatique et au niveau des sols. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, une fois qu'on a toutes ces données, on regarde au paysage qu'on essaye soit de recréer ou de protéger avec les espaces qui sont adjoignants à la zone dont on essaie de s'occuper. Donc, si dans le cas d'une mine, par exemple, on regarde aux forêts qui étaient là avant, les espèces qui ont été répertoriées, les espèces qui sont avoisinantes, et on va regarder Maintenant que le paysage a été, on va dire, déformé, quelles sont les espèces qui vont pousser ou qui seront plus adaptées à pousser dans ce nouvel environnement? Et une fois qu'on a tout ça, en fait, on fait un amalgame des deux, on développe un plan qui va nous dire, bon, mais ces espèces, là vont plus être adaptées dans cette partie du terrain, et cette autre espèce, ces autres parties d'espèces vont être dans une partie différente. Et de là, on contacte les communautés indigènes, donc les peuples premiers en Australie qui vivent dans ces terres, et on leur demande, on leur dit, bon, mais voilà les espèces qu'on a identifiées, est-ce qu'il y a d'autres espèces auxquelles on n'a pas pensé? La dernière chose qu'on veut, c'est introduire une espèce qui ne fait pas partie du landscape et qui pourrait devenir invasive. On a un partenariat avec une organisation basée en Suisse qui s'appelle Restore, un laboratoire de recherche, qui est un petit peu, on va dire, l'équivalent du Google pour tous les écosystèmes dans le monde. Et on fait en fait une validation de la sélection des plantes pour ce terrain particulier. Une fois qu'on a le feu vert de Restore en Suisse, plus le feu vert après du gouvernement, du ministère de l'Agriculture et des Forêts, c'est là où on prend contact avec les peuples aborigènes, les peuples premiers en premier, pour essayer de les impliquer dans la collection de graines endémiques. Donc ça, c'est pour les aider en fait et leur donner du travail. Et tout le reste, on fait partie en fait d'un groupe où on a accès à des banques de graines qui sont situées dans le monde entier, où dans lesquelles on arrive à avoir le reste des graines en fait qu'il nous faut. Donc en Australie, on travaille énormément avec les peuples premiers pour nous aider à préparer le sol. On évite en fait de remuer la terre parce qu'il y a un écosystème incroyable au niveau des bactéries. Et donc on emploie les peuples premiers pour nous aider à s'occuper des herbes. Alors on a une association avec une organisation très particulière ici en Australie qui s'appelle Firestick Alliance, une organisation de peuples premiers qui font ce qui s'appelle le cold burning du landscape. Donc, ils nous aident en fait à préparer les terrains en brûlant à une période très particulière les mauvaises herbes afin que nous puissions faire la plantation. Donc, ça, c'est l'étape numéro 3. Et l'étape numéro 4, c'est tout ce qui est la surveillance en fait des forêts une fois qu'on a planté pendant les 25 ou les 30 prochaines années.
Et ça fonctionne? C'est quoi vos premiers résultats?
On a une forêt test qui se trouve dans une petite ville qui s'appelle Dowerin, qui est à 250 km à l'est de Perth et qui ne reçoit que 30 millilitres d'eau, enfin de pluie par an. Donc c'est un climat qui est considéré semi-aride. Les plantations qu'on a fait là-bas ont des résultats qui sont de plus de 75% de germination. Donc quand on extrapole en fait ces résultats dans des zones, plus on se rapproche de l'équateur, plus il y a de la pluie, on a des résultats qui sont au-delà de 80%, voire 85% quand on travaille avec des espèces tropicales.
Votre entreprise travaille bien au-delà de l'Australie. Vous avez des projets à travers le monde et vous ne faites pas que de la plantation de nouvelles graines. Quelle est l'étendue des missions de votre entreprise?
On est global, on est basé à Sydney, nos ingénieurs sont basés en Suisse. Au niveau des projets, on fait peut-être 50-50, donc 50% c'est vraiment de la restauration, on va dire pure et dure, des seed pods avec les drones. Le reste du travail qu'on fait, c'est de la protection environnementale dans des milieux qui sont, on va dire, soit difficiles d'accès. Donc, je vous donne un exemple. On a un projet en ce moment dans les Philippines avec un peuple indigène qui a identifié, il y a des arbres qui ont été coupés illégalement. Ils vivent dans une forêt qui est tellement grande, ils n'ont pas les moyens de faire la surveillance de toute la forêt. Donc, on met en place des systèmes qui nous permettent de regarder l'état de la forêt semaine par semaine à exactement la même heure. On travaille à ce moment-là avec des satellites. On a des projets qui ont à voir aussi avec des populations animales qui sont en danger. Donc, le projet sur lequel on est en train de bosser en ce moment est à Bornéo avec une organisation qui s'appelle OURF. La capitale Jakarta est en train d'être bougée de là où elle est pour se retrouver en plein milieu d'une forêt, de la forêt équatoriale, de la forêt tropicale, pardon, où vivent les orang-outans. Et donc, on travaille avec OURF pour vraiment comprendre comment les populations locales d'orang-outans qui vivent dans ces forêts sont en train de se déplacer. Là, à ce moment-là, on travaille avec des drones qui sont équipés de caméras thermiques qui permettent d'identifier dans la canopée où se trouvent ces populations d'orang-outans et comment ils se déplacent dès que les engins arrivent pour couper la forêt. On a des projets ici en Australie, à côté de Byron Bay, avec des koalas. Et on travaille aussi au Vanuatu pour aider des peuples premiers, pareil, à protéger leurs mangroves. Voilà. Donc, c'est un petit peu tout. On fait, comme je vous disais, 50% de la plantation et puis après 50%, on travaille vraiment avec dans l'environnement pour la protection et la sauvegarde de la biodiversité.
On est à une époque aujourd'hui où on peut avoir l'impression qu'on a atteint un point de non-retour dans la crise environnementale. Est-ce que si on vous écoute bien, si on lit entre les lignes de ce que vous nous dites, on peut avoir cette impression qu'en fait le point de non-retour n'a pas été atteint et que la reforestation, par exemple, c'est pas un projet trop ambitieux?
C'est une bonne question. Ben, en fait, moi, depuis que je suis tout petit, je suis l'optimiste éternel. Donc, le verre est toujours rempli, il y a toujours l'eau dans le verre. Et il y a quelques années, il y a le Washington Post qui avait publié les résultats d'une étude. Il y avait 1,52 trillion d'hectares de terrain, en fait, qui sont déforestés. Donc, c'est-à-dire, c'est notre opportunité. C'est le marché, on va dire, sur lequel nous, on opère. Un hectare, c'est la taille d'un terrain de football. Cette masse, en fait, sur laquelle on peut planter des arbres aujourd'hui, c'est l'équivalent des États-Unis et de la Chine ensemble. Il y a de l'espace pour planter des arbres. Est-ce qu'on a atteint le point de retour? Moi, je suis persuadé que non. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec la nature et en fait, la nature est extrêmement résiliente. Et je pense que si on fait tous des efforts, on arrivera justement à faire des améliorations dans la biodiversité et notamment dans les forêts. Il y a une cascade en fait de conséquences à faire le travail qu'on fait, notamment au niveau de améliorer la qualité de l'air, améliorer la qualité de l'eau, protéger justement les ressources ancestrales des peuples premiers avec lesquels on travaille, entre autres.
Et pour cela, vous estimez que les nouvelles technologies, la robotique, l'intelligence artificielle, c'est essentiel. Vous pensez que vous pourriez faire ce même métier aujourd'hui sans toutes ces technologies?
Ça serait possible, mais ça voudrait dire qu'il faudrait retourner à planter des petits arbres qu'on a fait pousser dans une nursery et les planter à la main. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est le développement de ces technologies, de la robotique, de l'intelligence artificielle, font que on a moyen justement d'accélérer le processus traditionnel de la foresterie traditionnelle.
Merci beaucoup, Aymeric Maudou. Je le rappelle, vous êtes le CEO et fondateur de Lord of the Trees, une entreprise de restauration d'écosystèmes à l'aide de nouvelles technologies. Merci, Aymeric.
Merci beaucoup. Merci à vos éditeurs.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
Le repos d'un éternel été. Avancer par des tours, j'aimerais m'inventer mille noms pour chaque humeur.
Un trio pour interpréter cette chanson de 2025, Joey Homicile, Casey Lombeast et Lucien Gainsbourg. SBS Examines se pose cette semaine la question de comment les nouvelles lois australiennes aident à prévenir et à répondre aux discours de haine, puisque selon les Nations Unies, eh bien, les gouvernements du monde entier ont bien du mal à lutter contre ces discours.
En 2019, les Nations Unies ont lancé une stratégie et un plan d'action sur le discours de haine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré « Le monde a vu le discours de haine comme un précurseur des crimes atroces ». Il a ajouté que les gouvernements ont du mal à prévenir et à réprimer la haine orchestrée en ligne et a proclamé le 18 juin, Journée internationale de lutte contre le discours de haine. Cette journée nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons identifier, aborder et contrer le discours de haine. Dans cet épisode SPS Examines, nous nous demandons comment les nouvelles lois australiennes sur le discours de haine visent à gérer l'impact sur notre société et si on pourrait en faire davantage pour le contrer.
I was in the car, I was at a red light and I had a man in a ute start to verbally abuse my sister and I.
Nadia Saed revient sur un incident survenu l'année dernière lorsqu'elle a été victime de discours de haine en tant que femme musulmane. Attention! Ce qui lui est arrivé est bouleversant.
While these criminal laws do send a strong message to the community that hate speech is unacceptable, there is less agency or power in the hands of the victims to make complaints or engage in supported, meaningful dialogue with the people who have subjugated them to this hate speech. And civil laws are able to do that.
En tant que leader communautaire, Nadia affirme que l'impact du discours de haine, non seulement contre elle, mais aussi contre sa communauté, est important.
I'm someone that's always been very outspoken, never been afraid to walk out with my hijab on, but I find that nowadays I'm a little bit more hesitant. I prefer to go certain places with another person rather than going alone. There's a lot of frustration, there's a lot of fear, and there's a lot of disappointment as well, because as a community, we thought, you know, we'd really built amazing bridges, we'd built relationships with communities, and unfortunately, the rhetoric is
En février dernier, le Parlement fédéral a adopté le projet de loi modifiant le code criminel, crime de haine, apportant des modifications aux dispositions existantes relatives aux crimes de haine dans la loi sur le code criminel de 1995. Le projet de loi a été présenté au Parlement l'année dernière par le député fédéral travailliste et ancien procureur général Marc Dreyfus. Il a déclaré que de nouvelles protections renforceront la capacité des forces de l'ordre à intervenir tôt pour prévenir les actes de violence.
They will better enable our law enforcement agencies to disrupt, investigate and protect against the harms caused by those who foster hatred, extremism or incitement to violence.
Le but est de renforcer les lois existantes de l'Australie en réponse à des récentes vagues de violences antisémites.
With these laws, we are sending a clear signal to those who seek to divide us. There is no place in this country for hate speech and other hateful conduct that urges or threatens violence against others.
Sarah Schwartz, directrice juridique du Human Rights Law Center, souligne que l'incitation à l'utilisation de la force ou de la violence contre des groupes spécifiques était déjà punie par la loi.
And those groups weren't just limited to race, religion or national origin, but also included sex, sexual orientation, gender identity, intersex status and disability. The government changed the intention requirement from intentionality to recklessness, so a bit of a lower threshold.
Le docteur Nicole Shackleton, chercheuse en sociologie du droit à l'université RMIT, souligne que les nouvelles lois arrivent à point nommé, mais s'insiste qu'il reste encore beaucoup à faire.
So there's questions about how effective these laws will actually be at providing results for the communities that are often targeted by hate speech. Secondly, this targeted approach towards hate speech doesn't include any civil laws.
La Dr. Shackleton affirme qu'un renforcement des lois civiles donnerait plus de pouvoir aux communautés ciblées pour mieux contrer le discours de haine.
While these criminal laws do send a strong message to the community that hate speech is unacceptable, there is less agency or power in the hands of the victims to make complaints or engage in supported, meaningful dialogue with the people who have subjugated them to this hate speech. And civil laws are able to do that.
Nadia Saed précise que sa communauté, basée à Brisbane, a accueilli favorablement les nouvelles lois.
It feels like it's an added layer of protection. And it's actually saying that we're hearing the voices of victims of hate speech. And we acknowledge you, and we will stand up against this as a country.
Cet épisode a été produit par SBS Examines. Dans les prochains épisodes, SBS Examines examinera plus en détail comment nous pouvons lutter contre la haine.
Il a plu dans la chambre. Est-ce que c'était mes larmes ou juste un bout de toi qui part? Je crois. crois que j'ai mon qui tremble. Je cherche, nos cœurs se dévorent. Je sais qu'on s'aime encore.
Voilà la chanson La pluie qui a valu à Louan d'être nommée au Energy Music Award pour le hit francophone de l'année 2024. C'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, même fréquence, même heure. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent samedi après-midi. Au revoir, messieurs, dames.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.